Avec les débats de Panorama jusqu'à 19h et moins d'un an après son sacre, voici que Charles III apprend qu'il a un cancer. Le roi maudit, titre Paris Match. Retour sur la personnalité de Charles, cet enfant tiraillé, n'ayant jamais trouvé sa place, en conflit permanent avec son père, à qui on a imposé une épouse alors qu'il en voulait une autre. Que fait le roi pour échapper à la maladie? William va-t-il arriver plus tôt que prévu? Ça, personne ne le sait, mais il y a des préparatifs en cours. Le monde, une nouvelle fois, il faut le dire, étrangement à l'affût des moindres de nouvelles de Buckingham. Ça passionne le monde entier à chaque fois qu'on parle des Windsor. On en parle avec les invités. Bonsoir Jérôme Caron.
Bonsoir.
Journaliste à Point de Vue. Bonsoir Marie-Laure Combes.
Bonsoir.
Alors à Europe 1, vous occupez des réseaux sociaux, mais vous avez une petite passion en vous, et nous on la connaît ici à la rédaction, c'est la famille royale britannique.
C'est ça.
Et vous connaissez absolument tout là-dessus, donc c'était pour moi tout à fait naturel de vous inviter pour parler de ça. On sera en ligne dans un instant avec l'ancien ministre de l'Europe britannique Denis McShane, mais d'abord, Capucine Patouillet, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Retour avec vous sur les maladies qui ont frappé la monarchie britannique, à commencer par feu la reine Elisabeth.
Oui, on a appris récemment que la reine aurait souffert dans les dernières années de son règne d'un myélome, une forme rare de cancer des os. Le cancer, c'est une maladie qui a souvent frappé plusieurs membres des Windsor. La reine mère Elisabeth, qui souffrait d'une tumeur au côlon dans les années 60, puis au sein dans les années 80, et George VI, père d'Elisabeth II, qui lui fut atteint d'un cancer du poumon.
Et si on se replonge dans notre propre histoire, qu'en est-il de nos rois français?
Eh bien, il y en a eu en effet, puisque pour parler des monarques les plus connus en France, en novembre 1314, le roi Philippe le Bel, en pleine chasse, tombe de cheval. Il est vraisemblablement, selon les historiens, frappé d'un AVC qui lui sera fatal quelques semaines plus tard. Louis IX, dit Saint-Louis, lui, mourut de la peste. François Ier fut emporté par la syphilis. Louis XIII par la maladie de Crohn. Louis XV, la petite vérole, plus communément connue comme la variole. Charles X, du choléra. Mais celui qui fut, pour ainsi dire, un miraculé tout au long de sa vie, il a manqué de mourir plus d'une fois dès son jeune âge, c'est Louis XIV. Écoutez bien, à 9 ans, on lui diagnostique la petite vérole, donc la variole. Il en gardera des cicatrices au visage. En 1655, à 12 ans, une urétrite dégénère en blénorragie, une MST aujourd'hui, dirait-on. En 1658, à 15 ans, la fièvre typhoïde sur le champ de bataille à Dunkerque. Son frère Philippe d'Orléans manque de monter sur le trône à cette époque. En 1683, victime de ses dents cariées, un chirurgien lui perfore la mâchoire en tentant de lui en arracher une. Il finira sa vie quasi édenté. En 1685, une fistule anale, et enfin la gangrène diagnostiquée à une de ses jambes. La maladie l'emporte dans d'atroces souffrances en 1715 à l'âge de 76 ans. Un miraculé donc, car malgré ses épreuves, il est aujourd'hui le roi ayant régné le plus longtemps sur la France, 72 ans.
Oui, puis alors 76 ans à cheval entre le 17e et le 18e siècle,
déjà, c'est un exploit,
c'est vraiment
aussi
un énorme record. On n'est pas loin de Ramsès là. On est en ligne avec le ministre, l'ancien ministre britannique de l'Europe. Bonsoir Denis McShane.
Bonsoir.
C'est cette annonce, en tout cas, l'annonce du cancer, ça a été un choc.
Bah, à l'époque, tristesse, bien sûr. Il a 75 ans et il est déjà être à l'hôpital pour un petit gonflement du prostate qui était pas très, très important. Et tac, de nulle part, on annonce un cancer. Mais le problème est que le rideau tombe à ce moment-là. On ne sait pas quelle espèce de cancer, est-ce que c'est sérieux, quelle espèce de traitement. Donc tout le monde le veut, bien sûr, retour en plein santé rapidement. Mais la nation est suspendue parce qu'on ne sait rien.
Alors, la nation est suspendue parce qu'on ne sait rien. Mais alors, on l'a interrogé tout à l'heure, on a entendu les Londoniens dans le journal de 18h. Ce n'est pas non plus dramatique pour l'ensemble des Anglais.
Non, bien sûr, on a déjà un roi en attente, le prince William,
ouais.
Sauf que lui aussi, sa femme, la princesse Catherine, vient de passer 15 jours à l'hôpital pour ce qu'on appelle une intervention abdominale, sans qu'on précise quoi exactement. Elle a 42 ans, en pleine santé, et maintenant elle est en convalescence chez lui. Et le prince William a après suspendu ses devoirs d'être le deuxième du pays pour être à côté de sa femme. Mais voilà, on a le roi, sans qu'on connaisse les détails de sa maladie, on a la reine future, et on ne connaît pas l'état exact de sa santé. Et il semble que la monarchie, après la disparition de Sa Majesté la Reine, Elizabeth, est dans un état un peu difficile exactement à établir. C'est exactement ce qui se passe.
C'est le sort qui s'acharne sur le roi Charles.
Bah, qui sait alors, on a sur beaucoup des années de devenir président des États-Unis, ou le général de Gaulle de devenir président de la France, et à l'âge normalement après l'âge de retraite. Le problème, c'est qu'il y a tous des rumeurs. Vous parlez chirurgien, et chaque spécialiste de cancer en Angleterre, en titre privé bien sûr, et là, en disant, mais qu'est-ce qu'il a exactement? On dit par exemple que la reine a eu à la fin de sa vie, c'est en anglais, ça s'appelle un myéloma.
Oui.
Une espèce de cancer, je crois, de cellules.
Exactement.
Et si vous êtes un parent très proche de victime de ce cancer, vous avez beaucoup plus de chances de l'attraper vous-même. On sait que sa femme, le Camilla, est une grosse fumeur à la maison. On voit toujours à la passer avec une cigarette dans sa bouche. Donc, est-ce que le roi Charles était, comme on dit, un fumeur passif dans cette sens-là? Mais ça, c'est sans importance. C'est plutôt une
réflexion
que toute l'Angleterre se tourne très très mal actuellement dans tous les domaines, et surtout les non-pénuries de traitement de cancer. L'Angleterre dépense beaucoup moins que la France sur la recherche de cancer, et normalement des citoyens qui doivent attendre 2, 3, 4 mois avant d'être examinés pour un cancer. Bien sûr, le roi va tout de suite à l'hôpital et on le veut, une récupération, un retour à son devoir très rapidement, mais tout est suspendu. C'est le moral est très, très bas maintenant en Angleterre avec le Brexit et tous les problèmes de l'économie et la société. Et le fait que maintenant le roi est atteint de ce cancer ajoute à cette morosité chez nous.
C'est d'autant plus que c'est un symbole qui est touché, Denis.
Exact. On avait toujours la présence de cette femme qui est entrée comme reine à 26 ans, mais trentaine, très belle, quarantaine, toujours belle, cinquantaine, une mère, soixantaine, une grande mère, elle est toujours là.
Dans le cœur des Anglais.
Peut-être ne reconnaît pas que les hommes et les femmes, même s'ils sont rois ou reines, sont humaines et ils souffrent et ils peuvent disparaître un jour. Et d'avoir toutes ces questions qui tournent dans la tête de la nation, c'est pas très bon pour la morale du pays.
Eh bien, merci beaucoup, Denis McShane, d'être passé par Europe 1 pour donner votre avis sur cette malédiction du roi Charles. Je vais me tourner vers nos invités, mais d'abord, Jérôme Caron et Marie-Laure Combe, j'avais vraiment envie de vous faire écouter ces quelques secondes de Jonathan Coe, qui est un fameux romancier anglais que j'ai interviewé il y a quelques mois. Il était de passage chez Gallimard pour son dernier livre. Et quand je lui ai parlé du roi Charles, qui encore à l'époque était prince de Galles et qui allait devenir roi, voilà ce qu'il disait.
Yeah, poor Charles, he had to wait a long time before his moment at the center of the stage.
Voilà, il a attendu si longtemps, ce pauvre Charles, pour Charles, c'est pour ça qu'on a appelé notre panorama pour Charles, il a attendu si longtemps pour avoir le rôle principal, hein, et puis voilà ce qui lui arrive.
Fatalité, destin, mauvaise hygiène de vie, non, il paraît qu'il a une bonne hygiène de vie, en tout cas.
Ah, il mange que des plantes et des salades de Highgrove.
Après, il a fait beaucoup de sport, il a des problèmes de circulation. Dans la famille, ils ont tous des problèmes de circulation. On voit ses mains gonflées quand il descend de l'avion.
C'est vrai que Camilla est une fumeuse incroyable.
Elle l'a été, ça c'est vrai.
Ouais, mais elle fume plus, je crois.
Non. Ouais. Je pense. Enfin, j'ai pas de certitude absolue, mais.
Sauf si Denis est invité régulièrement à Highgrove et qu'il a vu des Marlboro rouges sur la table.
Ou des Benson, mais.
Ouais, des Benson. Un truc anglais, voilà. De Peter Stuyvesant ou un truc comme
toujours,
ça.
Toujours est-il que.
Pardon, monsieur Evin, pardon, j'ai rien dit.
ça n'a pas eu lieu. C'est un pauvre Charles. C'est exactement le titre de votre émission, résume exactement le sentiment général, presque mondial. il a attendu, ses obsèques ont été très longues, dans lesquelles il a été au maximum de ses capacités, tout s'est globalement bien passé, il y a eu certes des incidents qui ont été remarqués, mais vraiment très peu par rapport à la durée des obsèques, par rapport à l'intensité qui régnait à ce moment-là. Le couronnement aussi, ça a été un couronnement modernisé, même si ça ne se voyait pas, mais avec les différentes religions représentées, avec beaucoup de personnalités de la société civile, c'était pas un entre-soi totalement enfermé entre prince et princesse, donc il était très bien parti. Et puis là, le coup du sort, alors on peut réfléchir pendant 10 minutes sur il annonce clairement qu'il se fait opérer pour une opération d'hypertrophie de la prostate, donc là on a un truc très clair, et puis après on a une forme de cancer dans le communiqué d'après, donc ça reste très flou. Est-ce que c'est pas pour inquiéter, est-ce que c'est pour éviter...
Est-ce qu'on a dit d'ailleurs qu'il avait des examens sur la prostate, et ensuite il a dit on n'a pas insisté sur le cancer parce que c'est un cancer de la prostate, hein. À un moment donné c'est...
Ils ont dit que c'était pas un cancer de la prostate.
Ils ont précisé.
C'est la seule chose qu'on sait sur ce cancer, c'est que c'est pas un cancer de la prostate.
D'accord.
Voilà.
Tout à fait. Ça c'est le truc absolu. Et puis l'idée de Buckingham, c'était de dire, mais si on dit précisément ce que c'est, on va faire encore plus de spéculations. Donc c'est une ligne de crête. C'est très compliqué la communication sur la santé parce que vous franchissez la vie privée. En même temps, les gens ont le droit d'être informés. Et puis plus globalement, avec un peu de recul, on est sur les deux corps du roi. On est sur le corps physique et sur le corps spirituel. C'est-à-dire que le corps physique, c'est Charles. Le corps spirituel, c'est la monarchie. Et de toute façon, elle perdurera. Et la présence de William, qu'il y a maintenant au début de la semaine, qui a remis 50 distinctions de l'ordre du mérite, ce genre de choses à des citoyens.
Alors qu'il était au chevet de sa femme et qu'il s'était retiré.
Qui s'était retiré depuis un mois, personne ne l'avait vu, il a fait deux apparitions dans la même journée. Donc c'est toujours l'idée que ça continue, que ça perdure.
Marie-Laure, votre petit cœur de fanat des Windsor a dû battre très très fort lorsque vous avez vu...
Mais oui, et en même temps, Charles, il a 75 ans, Capucine Patouillée.
Alors, je signale juste pour ceux qui nous regardent en vidéo que Marie-Laure porte un foulard avec des petites reines Elisabeth dessus. Hein. Ça, c'est une marque célèbre qui commercialise ça. Je m'arrête.
Charles a 75 ans, et Capucine Patouillée, elle a rappelé, dans sa famille... Il y a quand même un historique de cancer, voilà. Donc c'est pas si étonnant que ça non plus que on lui découvre quelque chose. Et puis tout roi qu'il est, c'est un homme, quoi. Donc effectivement, comme beaucoup d'hommes, il a des problèmes de prostate. Voilà.
Mais c'est pas un cancer de la prostate, on vous a dit.
Mais c'est pas un cancer de la prostate, certes.
Mais alors du coup, comment est-ce que ça s'agite dans les couloirs? On a parlé de William, il y a déjà une forme d'attentisme. On va pas dire que William se prépare à la mort de son père, mais bon, quand même.
Un petit peu rapidement en besogne quand même. Il commence son traitement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la monarchie est démunie. Elle perd Kate, qui est absente logiquement jusqu'à Pâques, même si on a eu des informations ce matin expliquant qu'elle irait peut-être sensiblement, enfin que son traitement serait efficace. C'est des sources des journaux anglais. Mmh. Ensuite, on a donc Charles, dont on ne sait pas précisément la durée d'immobilité. Et donc, ça fait pas beaucoup de monde pour les centaines d'activités, d'obligations officielles.
Et Harry, lui, il a fait juste un aller-retour. Hein. Il est allé saluer son père.
25 heures.
45 minutes.
Voilà.
25 heures de vol.
25 heures.
De vol.
25 heures sur place.
Voilà.
25 heures.
22 heures de vol, aller-retour, pour 45 minutes d'entrevue avec son père. Voilà. C'est assez court.
C'est court, et en termes d'empreinte carbone, c'est quand même assez impressionnant.
Oui, lui
aussi.
Qui paraît-il est très très au fait de l'empreinte carbone. Donc
disons que son frère, quand il fait un événement, il demande à tout le monde de venir en bus. Après, c'est chacun sa formule. Mais toujours est-il que oui, Harry est revenu, tout le monde a espéré une réconciliation. On s'est dit, ah mais le frère, ils vont se revoir, c'est dur, c'est triste, au chevet du père. Absolument pas.
Il n'y a pas eu d'entrevue entre les deux frères.
Comment on les appelle d'ailleurs, les Fantastic Four,
les Fabulous Four.
Les Fabulous
Four. Mais ça, c'était avant.
Ouais,
c'était avant.
Ah, oui. Ils se brouillent.
Avant que tout explose. Et donc l'entourage de William a fait savoir que l'emploi du temps de William n'était pas programmé pour voir son frère. On sait que William a énormément de rancune envers Harry, surtout notamment depuis... Avec le livre Le Suppléant. Et puis ça a commencé beaucoup plus tôt. Ça a commencé avec les accusations du racisme supposé de la famille royale anglaise lors de l'émission d'Oprah Winfrey. Et puis ça s'est enchaîné ensuite avec les 6 heures de documentaire sur une plateforme bien connue. Et ensuite, il y a eu le livre... Une espèce, ça ne s'arrête jamais. Chaque fois que William a l'impression qu'on parle de son frère ou que son frère parle, c'est pour dire du mal soit de lui, soit de sa famille, soit de sa femme, soit éventuellement pas de sa grand-mère, mais bon, pas loin. Il y a un moment, ça fait trop, quoi. Donc, et puis ils ont très peur aussi, et ça, c'est une autre formule très simple à comprendre, c'est que Harry a tout dit sur sa famille. Là, il y a des opérations.
Il a annoncé,
verrouillage de communication.
Vous êtes en train de lire un roman et il vous raconte la fin. Donc, à la fin, il n'y a plus d'histoire. Mais ça vous passionne encore, Marie-Laure ?
Mais oui, parce que cette famille a. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez à ce cancer ? Non. Voilà, cette famille a toujours des nouveautés.
Il y a un cliffhanger à chaque fois, c'est ça qui est terrible. Il y a un deuxième tome, un troisième tome, un 34e tome.
En fait, il y a deux choses, c'est que vous avez le faste et l'intimité. Vous avez le faste avec cette espèce de vous avez ces carrosses, vous avez cette couronne, vous avez ce sceptre, vous avez ces traditions, ces gardons rouges. Enfin, on a l'impression que rien n'a changé, et c'est le cas depuis 1200 ou 1300. Et puis, vous avez un portrait familial en direct avec des gens qui s'aiment, des gens qui s'aiment pas, des gens qui se séparent, des gens qui divorcent, des enfants qui grandissent, et donc ça fait un effet miroir.
Enfin, il y a la même chose avec des Stetson et des puits de pétrole, ça s'appelle Dallas et ça a fait un carton. C'est-à-dire que n'importe quelle trame qu'on situe autrement, on enlève le faste, on met... mais en fait, les divorces, les trucs, ça passionne les gens.
Oui,
mais
c'est pas multiséculaire. C'est-à-dire que là, vous avez une histoire qui ne s'arrête jamais.
On verra si en 2000 ou en 3110, on regardera encore Dallas.
Hein. Sans moi. Mais plus.
Bah, bon, évidemment.
Mais je veux dire, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'au moment de... On fait des comparatifs entre Meghan Markle et Wallis Simpson, parce que... Alors, de manière un peu éloignée, mais quand même. Wallis Simpson a provoqué la rupture du duc de Windsor avec sa famille qui devait
avec Édouard VIII.
Avec Édouard VIII qui n'a jamais été couronné, mais qui voilà. Et de l'autre côté, vous avez Harry, en effet, qui part aux États-Unis. L'histoire continue, ça fascine les gens. Mmh. 2 milliards, je le répète régulièrement, 2 milliards et demi de téléspectateurs à chaque diffusion de mariage.
Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans tous les épisodes de la famille royale qui d'ailleurs ont été restitués à tort ou à raison et avec plus ou moins de précision par la série The Crown d'ailleurs?
Moi, je suis particulièrement fascinée par l'histoire de Kate et William.
Pourquoi ?
De cette roturière qui arrive à séduire le célibataire le plus en vue de toute la planète. Et vous parliez, Pierre, là, à l'instant, de la série The Crown. La façon dont la série raconte la façon dont Kate et William se sont rencontrés, sont tombés amoureux, se sont mis ensemble.
J'en suis pas encore là, j'ai dû louper les derniers épisodes.
Zut, je vais vous spoiler, mais...
C'est pas grave.
dans la série The Crown, tout est mis vraiment, on a l'impression que c'est Carol Middleton, la mère de Kate, qui est à la manœuvre derrière cette liaison. Elle est décrite, elle est dépeinte dans cette série comme...
Elle a un business plan, quoi.
Ah oui, ouais. Elle a tout misé, elle a fait de sa fille un cheval de course qui est... Elle l'a programmé pour épouser... William.
Enfin, c'est pas très original, ça existe dans plein de familles, notamment chez des industriels. Alors, quand on veut fusionner deux banques, on présente les arbres, ça marche beaucoup plus souvent qu'on ne le croit.
Tout à fait, mais déjà, si la retranscription de The Crown est vraie, elle a réussi. Je pense qu'il y avait de nombreuses prétendantes et elle a réussi. Mais,
ils dorment dans la même chambre jusqu'à présent.
Et ils ont trois enfants. Ouais. Mais alors, sur The Crown, moi, je suis très... globalement, la trame est assez vraie. Après, nous sommes dans une scénarisation hollywoodienne qui marque, qui surligne des effets qui n'avaient pas autant d'importance historiquement, notamment sur les premières saisons où il y a des épisodes qui sont très bons, puis il y a des épisodes où on sent qu'ils ont surappuyé quelque chose qui fondamentalement n'avait pas aussi d'intérêt ou de sens que ça dans la famille.
Ils n'avaient pas dit que c'était la dernière saison, celle qui est diffusée, c'est la 6, c'est ça ?
Oui, c'est la dernière.
Mais là, avec ce qui se passe avec Charles, ils vont en faire une 7e.
Elle devait s'arrêter à la 5.
Ah ouais.
Elle devait s'arrêter à la 5 au départ. Et ça a eu tellement de succès parce que leur principe, leur précaution oratoire au début de la production, c'était de dire on ne va pas arriver sur Diana et sur William et Harry puisqu'ils sont vivants. Nous, on va traiter des gens soit très vieux, soit morts. Et puis, au vu du succès mondial et phénoménal, et c'est vrai qu'il y a, c'est un nouveau coup de projecteur, ça aide encore plus. Ils ont été jusqu'à une 6e saison. La 7e, sincèrement, je ne pense pas parce que les audiences, à mon avis, d'après ce que moi j'avais cru voir, elles étaient un peu moins bonnes. Et puis, les aficionados ont trouvé que la dernière saison était un petit peu moins. Ouais. Mais en même temps, ça devient plus compliqué parce que lorsque c'est une histoire que vous ne connaissez pas, vous pouvez la voir. Lorsque tout le monde a vécu la mort de Diana, à un moment, tout le monde se souvient. Vous aviez la mort de Kennedy il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est où étiez-vous le jour où Diana est morte ? Et donc, ce souvenir-là, tout le monde se l'est approprié. Donc, le fait de le voir retranscrit sur écran n'est pas forcément ce qu'on attend. Et donc, c'est peut-être pour cela que les séries fonctionnent moins.
Oui, je suis d'accord. Il y a, dans cette dernière saison, il y a des éléments qui sont... historiquement incohérent. Il y a une scène où Kate est censée avoir rencontré William par hasard dans la rue en 1995 ou 96 quand Diana était encore vivante.
Ça n'a
jamais eu lieu.
Elle a toujours expliqué en interview qu'elle aurait rêvé rencontrer sa belle-mère.
Ça n'a jamais eu lieu. Et c'est ce genre d'incohérence qui, je pense, fait un peu fuir les aficionados.
Et alors, quand vous êtes vous-même, parce qu'il y a partisans, il y a les partisans de Mercedes qui détestent les BMW et inversement, est-ce que vous, par exemple, comme vous aimez beaucoup Kate et William, vous détestez Harry et Meghan?
Alors, non. Alors, pendant très longtemps, je ne suis pas du tout rentrée dans cette guéguerre entre Kate et Meghan. J'aimais beaucoup les deux. C'est vrai que depuis le Mexit... Je suis un peu revenue sur mes positions. Je ne déteste pas Meghan et je ne déteste pas du tout Harry pour une raison très personnelle.
Harry est né.
Alors, j'ai été très amoureuse de lui quand j'étais ado. Harry est né un jour après moi, donc c'est mon presque jumeau. Je me sens un peu liée à lui.
Il y a du lâchage là. Jérôme, c'est pas votre avis, vous?
Alors, la guerre, c'est la fameuse.
En 40 secondes, parce qu'après, il va falloir quitter l'antenne.
Très rapidement, vous avez dans tous les repas de famille les discussions Team Kate, Team Meghan. Moi, personnellement, j'ai trouvé que l'arrivée de Meghan faisait beaucoup de bien à la monarchie. J'ai trouvé que la monarchie l'a accueillie à bras ouverts, ce qui n'est pas le ressenti, ce qui n'est pas son ressenti à elle. Après, moi, ce qui me dérange énormément, c'est l'étalage de sentiments, le manque de pudeur en fait, qui s'étale maintenant
à l'américaine.
Depuis un an et demi. C'est ni dans la culture européenne et encore moins dans la culture britannique. Ouais. Et je pense que là, il y a un vrai fossé culturel. La problématique, elle est vraiment, pour moi, personnellement, plus culturelle qu'humaine.
Merci beaucoup aux invités. Merci Jérôme Caron. On lira Point de vue, bien sûr, comme d'habitude. Merci Marie-Laure Marie-Laure Combe, parce qu'il y a une Marie-Laure Delorme aussi, mais ça n'a rien à voir. Marie-Laure Combe. Merci à Capucine Patouillet, qui fait un travail exceptionnel tous les week-ends pour Europe 1 Soir.